Bonjour à toutes et tous. Donc je m'appelle Pierre-Julien et aujourd'hui je vais vous raconter comment je suis arrivé à embarquer sur l'Hermione, donc une réplique d'une frégate du XVIIIe siècle, pour une expédition qui a eu lieu en 2018 et qui avait pour objectif de traverser la Méditerranée.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Pierre-Julien raconte l'Hermione. Avec lui, on a parlé de voile, de baleine et de l'importance de garder une âme d'enfant.
J'ai bourlingué à travers le monde. Ce fameux bateau qu'est l'Hermione, c'est donc une copie du bateau qui a amené le marquis de Lafayette sur les côtes américaines pendant la Révolution américaine. Donc les Français aidaient les Anglais à l'époque sous le joug anglais. Et donc le roi de France a décidé d'envoyer un certain nombre de renforts aux Américains. Et donc le marquis de Lafayette est parti là-bas à bord de cette frégate, l'Hermione, qui a malheureusement coulé quelques années après. Et traditionnellement, la corderie royale qui est à Rochefort est le lieu historique, l'arsenal des rois de France, et regroupe un certain nombre de passionnés qui, dans les années 90, ont décidé de reconstruire une copie de cette frégate conforme. Ils ont mis près de 20 ans à le construire pour finalement le voyage inaugural qui a eu lieu en 2015, qui était la transatlantique. Donc refaire le voyage de Lafayette. Et ça a été la première fois où j'ai eu le contact avec cette frégate, puisque je suis assez passionné de voyage, je voyage aussi bien professionnellement que personnellement, très attiré par la mer, et c'est là où j'ai entendu parler du bateau. Alors malheureusement, il est un peu trop tard pour participer à cette transatlantique, mais j'ai continué à garder un œil sur l'aventure de ce navire, et j'ai pu, en 2018, j'ai vu passer sur Internet un appel à volontaires pour intégrer l'équipage de l'Hermione pour une future expédition. Donc j'ai tout simplement rédigé une lettre de motivation au commandant avec un CV et j'ai envoyé tout ça à l'arsenal de Rochefort. À l'époque, je travaillais en Afrique et j'ai eu la chance, au retour d'une mission là-bas, d'avoir un joli papier au courrier me disant que j'étais convoqué à Rochefort pour une première formation initiale. Parce que ce qu'il faut le savoir, c'est que au sein de l'équipage de l'Hermione, il y a une vingtaine de professionnels, des officiers de quart, des chefs de tiers, et le restant ce sont des volontaires, bénévoles, qu'on appelle les gabiers, et qui n'ont pour la plupart, à la base, aucune formation en maritime. Donc me voilà parti à Rochefort pour 3 jours de formation. On découvre le bateau, qui est quand même assez impressionnant, hein, parce que c'est vraiment le trois-mâts comme on se l'imagine. Il fait une 60aine de mètres de long, 50aine de mètres de haut. C'est quand même un navire assez impressionnant. Et donc pendant 3 jours, on découvre comment fonctionne la vie à bord du navire, et surtout ce fameux vocabulaire de marin, où il y a 36 façons d'appeler un cordage, tout sauf corde, hein, comme on dit. Donc on apprend tout ce vocabulaire, on apprend également sa fonction de gabier. Alors historiquement, les gabiers sont les membres d'équipage qui sont en charge des voiles. Tous ceux qui montaient dans la mâture. Donc c'était une fonction à bord qui malheureusement présentait un grand nombre de pertes, hein, puisqu'il était assez courant. Quand on lit les récits de voyage de la Pérouse ou de toutes ces grandes expéditions du siècle des Lumières, on s'aperçoit souvent que il y a eu un coup de vent, on a perdu 2 gabiers. Voilà, ça paraît presque normal. Mais quand on voit les conditions de travail de l'époque, oui, ça l'était presque. C'était presque évident qu'il y aurait des pertes dans l'équipage à ce niveau-là. Aujourd'hui, bien évidemment, la situation est totalement différente, hein, puisque les personnes en charge de la construction du navire, pour pouvoir accueillir des gens à bord, ont dû mettre en place tout un tas de sécurité, hein, puisque aujourd'hui le voilier a même 2 propulseurs électriques, puisque ça c'était une obligation, si on voulait pouvoir enregistrer le navire au commerce et puis pouvoir embarquer des gens à bord, il fallait quand même une assistance électrique. Et en ce qui concerne les gabiers, maintenant, bien évidemment, il y a un système d'assurance, donc nous sommes tous avec des harnais, des longes, des lignes de vie, ce qui n'empêche pas d'avoir le vertige. Ça reste très impressionnant. Pendant ces 3 jours-là, on apprend un peu notre métier de gabier, et puis c'est là où on commence à nous parler de l'expédition. Et pour cette deuxième grande expédition, l'association et le commandant ont décidé de partir en Méditerranée.
Alors, cette expédition-là s'est faite en partenariat avec la francophonie, autour d'un thème qui était le vivre ensemble, et de montrer que la mer était à la fois une frontière, mais également un espace d'échange et de communication. C'était, on va dire, les débuts de la médiatisation des problématiques, notamment des migrants en Méditerranée. Et donc, il y avait toute une thématique sur l'expédition pour essayer de sensibiliser aussi au vivre ensemble durant les escales. Alors, on découvre la carte de l'expédition, donc la traversée du golfe de Gascogne, qui est prévue pour fin de l'hiver 2018. Quand on s'intéresse un peu au monde maritime, on sait que la traversée du golfe de Gascogne en plein hiver peut être relativement mouvementée. Donc là aussi plein d'attentes et on va dire même une certaine excitation. Puis le passage de Gibraltar et un certain nombre d'escales donc tout le long des côtes françaises, de Collioure à Bastia, donc en passant par Sète, Toulon, l'ensemble des grands ports français sur la côte méditerranée. Donc quelques mois passent, on nous demande donc de choisir, chaque gabier, de choisir un peu quel leg nous intéresse. C'est un peu comme l'orientation après le bac, hein, on fait ses choix, on a trois choix. Donc je fais mes choix, j'envoie mes choix, et la réponse de l'association tombe quelques semaines après. Et donc je suis convoqué pour le leg quasi final, qui était mon premier choix, donc j'ai eu de la chance, qui est donc repartir de Méditerranée, repasser Gibraltar et remonter le long des côtes portugaises. Et donc c'est à Bastia que je retrouve en avril 2018. Et donc pour vous donner un peu le cadre, une escale de l'Hermione, c'est très animé. L'équipage est habillé avec des costumes, on va dire, d'inspiration traditionnelle du XVIIe siècle. Beaucoup d'activités, bien évidemment, autour de la frégate. Il y a pas mal de volontaires de l'association qui ne naviguent pas à bord, mais qui sont vraiment un des maillons essentiels de l'association, puisqu'ils font vivre tout ce qui va être autour du bateau, la boutique, les activités, et quand le bateau ne navigue pas, tout ce qui est visite du navire et entretien du navire quand il est à Rochefort. Donc on arrive sur la place à Bastia, et l'avantage c'est que quand on est gabier sur l'Hermione, on a ces fameux, alors c'est pas des gilets jaunes, c'est des t-shirts rouges, les t-shirts d'équipage, donc on est assez visible de loin, et là on a la joie de retrouver un peu tout l'équipage, qui commence un peu à nous raconter comment s'est passé les précédents legs, et surtout cette fameuse descente du golfe de Gascogne quelques mois plus tôt, qu'on a bien évidemment suivi sur les réseaux sociaux, mais quand c'est les personnes qui l'ont vécu qui vous le racontent, c'est toujours un peu plus impressionnant. Donc moi, en arrivant, donc il y a une répartition, et là on m'affecte au tiers tribord, donc assez content, puisque le tiers tribord, en termes d'horaire, c'est ceux qui font minuit 4 heures, midi 4 heures. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les ERAC, 0 à 4, et traditionnellement dans la marine, c'est réputé être l'écart les plus durs, puisque c'est vraiment le milieu de la nuit et le milieu de la journée. Ce qui a d'autres avantages, mais que je raconterai un peu plus tard. Donc on m'affecte au tiers tribord, et on prend ses quartiers dans les différents postes. Et donc on est soit logé en banette, soit traditionnellement dans des hamacs, hein, ce qu'on appelle des branles. Hein, voilà, c'est de là que vient l'expression branle-bas de combat, c'est-à-dire que au niveau des ponts inférieurs, là où était l'équipage, si on était amené à combattre, il fallait justement prendre tous ces branles et les mettre en bas. Donc là, c'est branle-bas de combat, il fallait enlever tous les hamacs qui empêchaient de passer entre les ponts, puisque traditionnellement l'équipage dormait au milieu des cannes. Donc je prends mon hamac, je m'installe, puis là on commence à faire connaissance, bien évidemment, parce qu'on ne connaît pas tous les gabiers, donc on fait connaissance un peu avec toutes ces personnes-là, et puis c'est là où on se rend compte que, justement, on peut être avec des gens qui viennent du fin fond du Mali, qui n'ont jamais vu la mer, mais qui ont, qui se retrouvent vraiment dans une situation avec un émerveillement qui est absolument fabuleux, donc une richesse humaine qui est là vraiment très intéressante. Et puis donc on récupère son équipement, tout ça. Et puis le navire le lendemain quitte Bastia et le voyage commence. Là, alors le voyage, pour vous parler un peu de comment ça se passe. Donc on part de Bastia. Notre objectif c'est Portimão, un peu au sud de Lisbonne, donc sur les côtes portugaises. après avoir passé Gibraltar. Donc on n'a pas d'autres escales normalement prévues. Le trajet qui est calculé par le commandant, donc, c'est de redescendre la côte est de la Corse, passer par les Bouches de Bonifacio, prendre quasiment plein est jusqu'aux Baléares, et puis longer par le sud les Baléares pour ensuite prendre la direction de Gibraltar, passer Gibraltar et ensuite remonter le long des côtes portugaises. Donc on part de Bastia, tout se passe bien, splendide météo, un peu de vent, les seuls bruits qu'on entend ça va être les craquements du navire, parce qu'on est sur un navire en bois, donc tu peux imaginer tout ce qu'il y a sur en termes de bruit, de craquement, le bateau vit vraiment l'élément marin, et on commence le rythme des quarts. On est de quart pour 4 heures, et les 8 heures suivantes, on a 4 heures vraiment de repos, et 4 heures où on est en renfort, si nécessaire, du tiers qui est actuellement de quart. Et donc on a, les quarts commencent à s'enchaîner, la petite routine de vie à bord s'installe. Alors il y a beaucoup d'activités, quand on est de quart, puisque de toute façon, une fois que les voiles sont bien réglées, établies, s'il n'y a pas de virement de bord ou s'il n'y a pas changement de vent, il n'y a pas grand chose à faire. Le navire est bien réglé, si les voiles sont bien réglées, les gabiers qui sont de quart, la plupart du temps, ont d'autres activités. Ça va être de travailler sur tout ce qui va être... On a la chance d'avoir à bord une maître voilière qui nous apprend à travailler la toile, les voiles, réparer les voiles, travailler le cuir, des cours de navigation, puisque on a l'avantage d'avoir une vingtaine de professionnels, de marins professionnels, donc avec des cours de navigation. Beaucoup de musique, hein, puisque traditionnellement, dans la marine, on chante beaucoup. Donc il y a toujours des gabiers qui sont avec soit une guitare, un accordéon. Donc il y a quand même toute une vie qui... en sachant que pendant ce temps-là, il y en a quatre qui dorment, et la plupart du temps, quatre qui mangent. Voilà, c'est un peu ça. Donc les repas sont assez réglés à bord, puisque c'est quand même une des notions assez importantes, hein. Pour l'équipage, il faut que le moral tienne, et pour que le moral tienne, il faut que l'estomac tienne. Donc on mange bien, hein, à bord de l'Hermione. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On mange bien pour que le moral aille bien, et puis pour que l'estomac tienne bien quand il y a un peu de tangage et un peu de roulis. Puisque, bien évidemment, la plupart des gabiers n'ayant pas forcément d'expérience maritime, on découvre tous à un moment ou à un autre, surtout à un moment dont je vous reparlerai juste après, qui est juste après les Bouches de Bonifacio, où le vent commence un peu à forcir, et il y a eu une demi-journée où, on va dire, le chou-fleur de midi a du mal à rester dans l'estomac. Alors, quand on est sur le pont, il n'y a aucun souci, mais quand on doit monter dans les voiles à 40 mètres de haut, avec le tangage, en fait, avec la hauteur, le débattement est vraiment important. Donc c'est vraiment, il faut avoir l'estomac bien accroché. Quand on doit aller régler les voiles là-haut, il faut savoir qu'il y a environ 180 cordages pour régler les voiles. Et donc la plupart de ces cordages ont un retour sur le pont, pour pouvoir, on va pas les tirer directement dans les mâts. En fait, il y a un retour sur le pont, et on tire au niveau du pont à plusieurs, la plupart du temps. Puisque vous pouvez imaginer la force qu'il peut y avoir sur une écoute de grand voile, sur un navire de 60 mètres, avec des poulies qui font quasiment un mètre cube, donc des poulies en bois. Alors, pour la petite anecdote, la poulie d'écoute de grand voile, on appelle ça traditionnellement la faiseuse de veuve. Quand il peut y avoir, si la voile faceille, qu'elle bouge dans le vent, la poulie peut vraiment passer au niveau du pont, et donc si on est sur son chemin, ça peut être compliqué. Donc, mais tout se fait de manière vraiment la plus sécurisée possible, et donc la difficulté est là de savoir quels sont ces 180, ce qu'on appelle des points de tournage, et donc il n'y a pas de secret, il faut les apprendre par cœur. Donc il faut vraiment, quand votre chef de tiers vous dit on va dire donner du mou, sans rentrer dans le langage maritime, sur tel ou tel cordage, il faut savoir où est-ce qu'il se retrouve sur le pont au milieu d'une dizaine d'autres cordages qui se ressemblent tous, pour la plupart, puisque sur l'Hermione, on utilise exclusivement, à l'exception d'un, des cordages traditionnels, donc qui sont des en chanvre avec du goudron, goudronné. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier, hein, puisque je reviendrai sur l'histoire du goudron, qui est vraiment, on va dire, l'un des symboles de l'Hermione. c'est une odeur qui marque et qui, je pense, pour la plupart des personnes qui ont navigué ou qui ont visité le bateau, c'est vraiment l'un des faits marquants. En termes de voyage, donc on part de Bastia, on descend les côtes, la côte est corse, donc vous pouvez imaginer les mouillages qu'on a sur ce coin de la Corse qui sont absolument paradisiaques. Au large de splendides plages, avec la gare et la vue sur les tours génoises et la gare corse, donc vraiment la totalité de l'équipage en prend plein les yeux. Et puis on attend une fenêtre météo favorable pour pouvoir passer les bouches de Bonifacio. Et finalement, donc cette fenêtre arrive. On passe deux nuits entre les îles Lavezzi et les falaises de Bonifacio, mais on arrive quand même à deviner les lumières de Bonifacio depuis la mer. Et donc c'est vraiment c'est ma première veille de nuit où pendant chaque quart il y a toujours quelques gabiers qui sont en charge de la barre et un gabier qui est en charge de la veille. Alors la veille, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment se placer à l'extrême avant du navire avec une radio, une paire de jumelles, et regarder ce qui se passe devant. Parce que quand on est à la barre, on ne voit absolument pas ce qui se passe devant, surtout si les voiles sont établies. Malheureusement, en Méditerranée, et on a pu en observer un certain nombre, il y a ce qu'on appelle les ophnies, les objets flottants non identifiés, donc ça peut être des containers, des choses comme ça, et donc qui peuvent endommager la coque. Et donc il y a toujours un gabier à l'avant qui est chargé de signaler les navires, les objets flottants, ou tout ce qui peut être intéressant à faire remonter à l'officier de quart. Et donc ma première veille de nuit se fait dans les bouches de Bonifacio, avec un temps absolument sans nuages, une lune juste au-dessus de moi, et en fait la chaise de veille se trouve sur le mât, tout à l'avant du navire, donc avec l'eau de chaque côté, il y a quelques mètres, une dizaine de mètres jusqu'à l'eau, et les dauphins qui jouent dans les trames. Donc avec le plancton luminescent et les dauphins, c'est vraiment, alors là, on en prend plein les yeux. On se retrouve un peu dans tous les récits maritimes qu'on a pu lire depuis qu'on est gosse. C'est vraiment un des avantages, ce que je disais tout à l'heure, d'être un Zérac, c'est d'avoir la chance de pouvoir faire cette veille de nuit sans aucun nuage sous la lune, sous la lumière de la lune, c'est absolument fabuleux. Le navire prend donc plein est. Comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on passe les bouches de Bonifacio, le vent fraîchit un peu, donc augmente. Et là, on se retrouve vraiment en pleine mer. On expérimente vraiment ce que peut-être les sensations de la navigation sans aucune terre en vue, avec une couleur de l'eau qui change, beaucoup plus profonde, un bleu vraiment profond. On sent qu'il y a entre 2 et 5 000 mètres de fond en dessous de nous, donc voilà. Et puis les mammifères marins apparaissent, on voit quelques baleines, des globicéphales, des tortues. Une vie marine qui est quand même relativement riche. Mine de rien, la Méditerranée reste encore... malgré la pollution, vraiment un espace très vivant. Hein. On a chaque, on va dire, respiration de baleine. Là, tu peux être sûr que vraiment l'ensemble de l'équipage monte sur le pont, appareil photo à la main. Et c'est à chaque fois la même chose. C'est vraiment d'avoir, quand on voit ça, on a le smile pendant un quart d'heure. C'est un bonheur, vraiment au sens propre. Un état second pendant une dizaine de minutes où on se retrouve face à la nature et on a vraiment cette joie de vivre, cet état presque de béatitude. C'est vraiment assez fort comme sensation. Et donc le navire continue sa route, on va direction les Baléares, et là malheureusement le vent mollit un peu, donc on est obligé de naviguer au moteur. Bon, ce qui donne quand même l'avantage, c'est pendant ces quarts de pouvoir faire plein d'autres choses. Donc il y a par exemple pas mal de gabiers qui ont travaillé le cuir, qui vont se faire des étuis en couteau en cuir, vraiment on coude le cuir à la manière traditionnelle, ou se faire des sacs de gabier en toile. Voilà, il y a plein d'activités à bord. Et puis, bien évidemment, pour rythmer l'écart, un des exercices favoris des chefs de tiers, qui est ce qu'on appelle l'exercice MOB, donc en anglais, Man Overboard, et donc qui est l'entraînement à si jamais quelqu'un tombe à la mer. En gros, c'est l'entraînement pour aller repêcher quelqu'un à la mer. Pour le coup, l'annexe, donc ce qu'on appelle le MOB, en gros, qui est un Zodiac avec un petit moteur et qui est au niveau du pont. Et donc l'idée, c'est de chronométrer combien de temps on peut mettre l'annexe à l'eau, le mob à l'eau, pour pouvoir aller chercher quelqu'un qui est tombé par-dessus bord. Donc on arrive aux Baléares, on passe les Baléares cette fois-ci deux jours. Nous qui voulions passer au large d'Ibiza avec les feux strobo et la musique au loin, Malheureusement, on la passe de jour, mais on voit vraiment qu'en fait, ce sont des îles très sauvages. On entend souvent parler d'Ibiza, et voilà, c'est la vision qu'on peut en avoir, boîte de nuit et bar. Alors que quand on passe par les îles par la mer, quand on voit les îles par la mer, on s'aperçoit vraiment du côté sauvage de ces îles. Et ça nous a donné quasiment tous envie d'aller un peu explorer, on va dire, l'arrière-pays, parce que c'est vrai que ça garrigue, qui a l'air absolument fabuleuse. Malheureusement, le calendrier étant ce qu'il est, on va dire le planning étant ce qu'il est, on n'aura pas l'occasion de faire d'escale à terre au niveau des Baléares. Et donc le navire continue sa route, direction Gibraltar. Alors là aussi, c'était un peu l'un des passages mythiques de l'expédition. Donc on arrive sur Gibraltar et on a quelques difficultés à passer le détroit, puisque il y a encore une tempête côté Atlantique qui nous envoie de forts courants qui passent de l'Atlantique à la Méditerranée, et le navire a extrêmement de mal à avancer contre le courant. Donc le vent n'aidant pas, nous essayons quand même de passer le détroit, et on y arrive finalement sur un créneau de nuit où on passe le fameux rocher de Gibraltar avec les lumières au fond, où là il y a eu un silence à bord quand on a passé Gibraltar, qui était assez fort, puisque c'est vraiment un des détroits mythiques pour tous les marins. Alors on n'en est pas encore au Cap Horn, même si aujourd'hui beaucoup d'entre nous en rêvent, mais vraiment là c'était vraiment une première étape de passer Gibraltar. Vraiment ce lien entre, en plus, avec tous les gabiers qu'on pouvait avoir d'origine africaine à bord, ce lien entre l'Afrique et l'Europe, et on voit vraiment les deux continents à l'œil nu, de se dire voilà que au final ces deux continents sont quand même relativement proches. Moi, à l'époque, je travaillais en Libye, donc vraiment, quelques semaines avant l'expédition, j'étais dans les camps de migrants, et là, je me retrouvais vraiment à voir vraiment ce lien entre les deux continents, si proche et au final, si éloigné, donc c'était quand même assez marquant. Et donc, je passe ce détroit avec le navire, et là, on a quelques difficultés qui commencent, puisque le vent tourne, aide de moins en moins, les courants sont de moins en moins favorables, et on se retrouve avec un début de tempête qu'on a eu du mal à anticiper, c'est-à-dire que les voiles sont quand même relativement bien établies, donc on a beaucoup de voiles, ce qui peut être dangereux quand il y a beaucoup de vent. Et donc, ça commence à être un peu tendu. Nerveusement, on sent que, voilà, au niveau des officiers professionnels, des chefs de tiers, de l'officier de quart et du commandant, va falloir quand même faire quelque chose. Et donc, on nous envoie dans la mâture, refermer ses voiles, sachant que, grosso, il est à peu près 3h du matin, il pleut, il y a des fortes rafales de vent, on n'y voit pas grand-chose, même avec les frontales, et on doit monter à 50 mètres de haut, les pieds sur un câble de quelques centimètres avec le vide, pour aller fermer des voiles. Une partie des gabiers monte sur le grand mât, l'autre sur le mât de misaine, et on monte vraiment tout en haut des mâts pour refermer, avec beaucoup de difficultés. Là, je crois que c'est vraiment le moment où pour ma part, j'ai vraiment ressenti le plus de difficultés, mais aussi le plus de presque d'excitation. C'était un moment fort. C'était dur, mais il y a quelques moments comme ça, moi, dans ma vie, où je me suis retrouvé vraiment en difficulté, avec une certaine appréhension, mais vraiment d'aller au-delà de cette appréhension et vraiment de presque du prendre plaisir à avoir cette appréhension. Donc ça dure au final pas très longtemps, hein, ça dure une petite heure, et finalement tout le monde redescend sur le pont. Assez marqué, mais avec le sourire jusqu'aux oreilles, parce qu'on est crevé, on n'en peut plus, mais on est content de ce qu'on a fait. Alors bien évidemment, la précipitation oblige, le travail n'a pas forcément été fait dans les règles de l'art, donc forcément il y a le tiers qui prend son quart juste après nous, qui arrive à la fin de notre quart, qui regarde ce qu'on a fait là-haut, et puis qui commence à nous vanner sur les nœuds qu'on a fait dans la mâture, parce que bon, c'est vrai que c'était, le travail était pas forcément bien fait, mais au moins on était content de l'avoir fait. Voilà, c'était un des moments forts de ce voyage. Et puis, donc, on se retrouve en Atlantique avec, là, tout de suite, la couleur de l'eau qui change, l'odeur. On n'est pas du tout, même les embruns n'ont pas du tout la même odeur. C'est moins salin. On est plus sur, voilà, on sent plus les odeurs de végétaux, d'algues. C'est vraiment quelque chose de très différent. Notre ambiance. Les vents aussi sont pas les mêmes, bien évidemment. Et donc, on commence à remonter les côtes portugaises pour atteindre notre destination, qui est Portimao. On arrive à Portimao, et là, c'est toujours un moment aussi assez fort d'arriver dans un port d'escale, puisqu'il faut imaginer, sur les plus grosses escales, des centaines de bateaux qui viennent accueillir l'Hermione. Donc la mer est vraiment couverte de bateaux, à Portimao également, plein de voiliers, d'individuels, hein, qui prennent leurs petits zodiacs et qui viennent à la rencontre de la frégate, et les traditionnels coups de canon. C'est vraiment la tradition, l'équipage est en costume d'époque, et donc c'est là que le navire rentre dans Portimao, et là c'est le moment un peu déchirant, puisque pour ceux qui doivent quitter le navire, ben voilà, ça fait 15 jours qu'on est à bord, on a vraiment vécu avec le bateau, c'est vraiment une... Pour ma part, ça a vraiment été une expérience humaine assez forte. Et voilà, devoir me retrouver à reprendre l'avion quelques jours après, on aura presque pas trop envie de s'attarder au Portugal. Pas parce que c'est le Portugal, hein, qui est au contraire, qui est une très belle destination. Mais c'est un peu comme enlever un pansement et dire voilà, il faut que la coupure se fasse, parce que sinon je reste et je réembarque. Donc voilà. On part avec une certaine amertume, mais vraiment plein de souvenirs, plein la tête. Une ambiance, bien évidemment, à l'arrivée, qui est quand même relativement festive. Le navire est un navire ce qu'on appelle sec, hein, il n'y a pas d'alcool à bord. Donc, dans les ports d'escale, traditionnellement, les marins, ça chante et ça boit. Donc, l'ambiance est plutôt très festive, et puis d'être accueilli vraiment par les Portugais avec une ambiance très chaleureuse, ça a vraiment été quelque chose d'assez fort également. Donc, voilà, je reprends l'avion. Et j'arrive à Paris, je rechange de sac, et là je repars en Libye quelques jours après, où je repars bosser, et me retrouver quelques jours après, de nouveau avec cette thématique des migrants, j'ai vraiment l'impression d'avoir... Ça reste quasiment un rêve, en fait, ces 15 jours, en sachant que c'est un rêve qui continue, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on est gabillé sur l'Hermione, on peut, à n'importe quel moment... Quand le navire est à Rochefort, donc c'est-à-dire 95% du temps, aller à l'arsenal, sur le chantier, bénévolement, travailler, donc on est nourri et logé, mais on peut y aller travailler, et puis ça permet aussi d'entretenir toutes nos connaissances. Donc voilà, c'est l'aventure continue. Et là, on a tous en tête la prochaine expédition. Je suis pas dans le secret des dieux, hein. Je rêverais d'un tour du monde, comme là, je pense, la plupart des gabiers. Sur plusieurs années, refaire ou finir la mission de la Pérouse ou vraiment passer le Cap Horn, la Bonne Espérance, faire le tour du monde par les trois caps, vraiment dans la lignée des Lumières, des expéditions des Lumières, de la Pérouse et de Bougainville. Donc voilà, ce sera peut-être un prochain épisode sur raconter le tour du monde cette fois.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu parler de ce voyage en particulier?
Pour faire simple, ça reste un des voyages qui m'a le plus marqué, où j'ai le plus appris en si peu de temps. Dans un élément qui est la mer, hein, l'élément maritime, où on arrive dans un monde vraiment totalement différent, avec un système de vie, un système d'organisation. Donc on va dire que c'est le voyage qui a été le plus en décalage, on va dire, avec ma vie de tous les jours. C'est vraiment là où j'ai vraiment ressenti ce décalage le plus important.
Bon, alors, t'as mentionné pendant ton récit une histoire de goudron. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, alors le goudron, pour l'anecdote, si un jour vous vous retrouvez avec des gabiers qui débarquent d'une escale de l'Hermione dans l'avion, vous les sentirez arriver. Voilà, c'est vraiment une odeur qui est assez forte, hein, puisqu'on utilise du goudron qui vient des pays nordiques. Donc il y a vraiment une forte odeur très marquante, très puissante, et qui vraiment colle à tout. C'est-à-dire que quand on arrive sur le navire, c'est vraiment la première chose qui vous marque, c'est l'odeur. Ça imprègne absolument tout, les tissus, la peau, les cheveux. Et donc au bout de quelques jours sur quand on va travailler sur le chantier ou quand on va en navigation, au bout de quelques jours, on ne sent plus l'odeur, non, quasiment plus l'odeur, ben, encore parce que c'est quand même relativement fort, mais quasiment plus. Mais on se rend pas compte en fait que nous-mêmes, on a vraiment en fait, c'est presque qu'on fait corps avec le navire. On est vraiment imprégné de cette odeur. Et pour l'anecdote, quand on s'est retrouvé à l'aéroport à Portimao, à devoir repartir en France, donc on était une dizaine de gabiers, ben les gens dans l'avion, en fait, tout le monde nous regardait. Au départ, on comprenait pas. Et au bout d'un moment, on s'est dit, alors est-ce qu'on sent mauvais? Pourtant, on était douchés. Ben, il y a des douches à bord, hein, donc il y a l'hygiène est quand même. Une très bonne hygiène, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais on s'est quand même dit, mais il doit y avoir un souci. Et finalement, c'est en arrivant à Paris que, en fait, il y a quelqu'un qui nous a dit, mais c'est quoi cette odeur? Et en fait, on sentait vraiment le goudron. C'est vraiment si un jour t'as vocation d'aller visiter le navire à Rochefort, ce que je te recommande fortement, parce que c'est vraiment une belle visite, tu seras marqué par l'odeur. C'est la première chose qui marque quand on arrive sur le navire.
Pendant ton récit, tu mentionnes un moment une nana, je crois, qui était maîtresse des cordes.
Alors, il y a ce qu'on appelle des maîtres au sein de l'équipage professionnel. Il y a un maître forgeron qui a vraiment forgé tous les éléments métalliques sur le navire, et on a la maître voilière qui a cousu à la main et vraiment l'ensemble des voiles de l'Hermione. Hein, donc, il y a plusieurs centaines de mètres carrés de voiles. Donc, je te laisse imaginer un peu le travail que ça représente. Et donc on a le maître coq, celui qui est en charge de la nourriture. Donc voilà, ce sont différents postes traditionnels, on va dire dans la marine traditionnelle, qui sont vraiment le maître d'équipage, ce qu'on appelle le bosco, qui est en charge vraiment de tout le gréement, en charge des voiles et du gréement, mais des voiles non pas de leur état, mais on va dire du réglage des voiles et de la propulsion du navire.
Ma question sous-jacente, c'était historiquement la marine c'est un univers masculin. Est-ce qu'il y avait des nanas à bord justement?
Ouais. C'était d'ailleurs c'est assez marrant puisque c'est vraiment on est quasiment à la mixité hein, en termes au niveau de l'équipage. À ce niveau-là, il y a vraiment aucun frein hein, puisque lors de l'expédition en Méditerranée, là, le second capitaine donc était une femme. Hein, donc il y avait des nanas qui étaient chefs de tiers. Dans les postes équipage, les couchages sont mixtes. On est normalement un paramac, mais voilà, c'est totalement mixte, les toilettes sont mixtes, il y a vraiment une mixité à bord qui est totalement assumée et qui fait partie un peu de cette dimension, de cette volonté d'avoir une dimension humaine assez forte au sein de l'équipage.
Pour ouvrir sur ta façon générale de voyager, à quel point tu prépares tes voyages et quelle place tu laisses improvisation une fois que t'es sur place?
Alors, à la différence de ce voyage que j'ai raconté qui était à bord de l'Hermione, qui était très préparé, la plupart du temps, je voyage en couple. Donc avec ma compagne qui s'appelle Marina, avec qui on voyage, on a vraiment une passion du voyage depuis une dizaine d'années. Donc Marina a même lancé un blog de voyage qui s'appelle Stories of Inspiration. Et pour, donc voilà, on a avec une vision du voyage qui est vraiment... Alors là, pour le coup, si on sort un peu vraiment du cadre de l'Hermione, qui est vraiment une préparation, mais pas forcément une réservation. Un voyage, on va souvent le préparer par beaucoup de lectures. Alors pas forcément des guides de voyage, hein, ça peut être aussi beaucoup de récits de voyage, ou même de grands écrivains qui ont écrit sur telle ou telle destination. Pour la petite anecdote, qui sort un peu des Kessel et autres grands écrivains voyageurs, j'aime bien lire les SAS. Ça a rien à voir, mais il a écrit, De Villiers a écrit sur tellement de destinations que de revoir une destination, parce qu'il est extrêmement bien documenté ses récits. Si on met de côté le côté érotico-espionnage, ce sont des livres qui sont très très bien documentés sur les destinations. Et c'est assez marrant de revoir un peu les lieux. Donc c'est un moyen comme un autre de préparer un voyage. Mais dans la plupart du temps, on aime bien se renseigner sur ce que peut représenter ce pays, à la fois vu avec une mentalité, on va dire, d'occidentale, quand ce sont des pays étrangers, on va dire hors Europe, et puis à la fois avec voilà, quels sont un peu les regards que peuvent avoir les habitants de ce pays.
Du coup, mis à part un SAS, qu'est-ce que tu prends toujours avec toi quand tu pars?
On va dire un appareil photo. Un appareil photo qui était vraiment le médium favori un peu de moi et Marina. On s'est un peu retrouvé autour de la photo. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on aime fixer. Après, on va dire maintenant aujourd'hui, sur la plupart de nos voyages, on va dire c'est plutôt Marina qui voyage toujours avec un appareil photo. Et moi avec un carnet de notes.
Du coup, en ce moment, c'est plus les carnets de notes, ta façon de te raconter, de documenter tes voyages.
Alors aujourd'hui, on essaye sur chacun de nos voyages de revenir avec un carnet de voyage, mais qu'on écrit pendant le voyage. J'ai toujours un peu de difficulté à écrire après. C'est vraiment dans l'instant que j'aime bien mettre sur le papier ce que je vois, ce que je vis. Et après, dans un deuxième temps, ça va être plutôt le traitement des photos, la publication d'articles sur les blogs, sur le blog, qui va être là où ça va être plus Marina qui va prendre la main. Moi, j'aime bien documenter dans l'instant.
Forcément, quand tu vis 15 jours pendant ton leg avec des gens sur un bateau, bon, ça doit être des rencontres quand même assez puissantes. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué, que ce soit sur l'Hermione ou alors pendant un voyage autre?
Alors sur l'Hermione, je pense que c'est des vrais. Pour rester dans le monde maritime, c'est un peu des amitiés au long cours. Je pense qu'il y a parmi les gabiers, il y a aussi un esprit, quasiment un esprit de corps, où on peut se retrouver même entre gabiers qu'on ne se connaît pas forcément, puisque on n'a pas été forcément sur les mêmes legs, mais avec cette chose commune qu'est l'Hermione. Donc la rencontre de ce voyage, c'est plus avec l'Hermione qu'avec les gabiers. C'est aussi il y a de très fortes amitiés qui sont nées. Hein. Il y a même plus que des amitiés, parce qu'aujourd'hui, il y a même des bébés d'Hermione, donc, entre guillemets.
Qui s'appelle Hermione
Non, je crois pas, mais je suis pas sûr. Mais là, ça serait marrant, tiens. Mais après, en termes de rencontres vraiment vraiment importantes au cours de certains voyages, une qui m'a marqué, ça va être une rencontre avec un chef de tribu aborigène. C'était un de mes premiers voyages en mode expédition, il y a une dizaine d'années, qui était une traversée de l'Australie en 4x4. Et on a eu quelques soucis techniques et mécaniques. On est resté coincé dans une réserve aborigène pendant quelques jours, le temps de pouvoir réparer. Et avec une ambiance dans cette réserve qui a été très particulière. Et le responsable de la réserve, le responsable aborigène, puisque les réserves sont encore pour la plupart des questions administratives presque gérées par un blanc, malheureusement, mis en place par le gouvernement australien qui... Alors, c'était il y a 10 ans, la situation a peut-être évolué depuis, mais on va dire que le blanc était en charge de la station de pétrole, d'essence, et gérait même les comptes des aborigènes. Et alors que le responsable de la tribu, lui, était là, et aussi bien le blanc nous a très mal accueillis, alors qu'on avait toutes les autorisations, on avait demandé les licences pour pouvoir traverser, mais nous a très mal accueillis. Autant ce responsable de la réserve nous a fait un accueil absolument unique. Et je pense que ouais, c'était mon premier grand voyage en mode expédition. C'est vraiment une des rencontres qui m'a marqué par la suite.
Tu le disais, t'as eu un petit peu le blues quand il s'agissait de partir de l'Hermione et de rentrer. Bon alors, pour le coup, c'était pas forcément rentrer au pays parce que tu retournais travailler, mais de manière générale, comment tu gères le retour?
C'est vrai que le blues du voyageur, on l'a après chaque voyage. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris à vivre avec, même d'autant plus quand on a eu la chance de s'expatrier pas mal d'années, donc c'est un peu... C'est un peu la même chose au retour d'expatriation, mais puissance 10 000. on va dire, là, en tout cas moi, mon moyen vraiment de garder cet esprit, c'est, on va dire, un voyage commence avec des lectures et finit avec des lectures. C'est vraiment de pouvoir, dans certains cas, lire le SAS après. C'est vraiment de continuer le voyage par la lecture. Vraiment de garder cette chose-là, cet état d'esprit.
Et pour se parler du futur maintenant, quels sont les prochains projets?
Alors les prochains projets, alors il y en a, il y en a tellement. Alors déjà, professionnellement, potentiellement une expatriation sur Singapour, ce qui nous permettrait à moi et Marina de repartir sur l'Asie, puisqu'il est un continent qu'on connaît bien. Marina a passé quelques années en Birmanie. Et donc, voilà, potentiellement l'Asie. J'avais en tête de refaire le trajet de la croisière jaune l'année prochaine pour les 90 ans. Le Beyrouth-Pékin. Mais bon, en passant par Damas, Bagdad et Kaboul, ça va s'avérer un peu difficile. Donc, non, je pense que, ouais, ça va être principalement l'Asie. Un retour en Birmanie, parce que c'est un pays qu'on adore, on essaie d'y retourner quasiment tous les ans, et cette année on n'a pas pu à cause du Covid. On a des petits bébés birmans qui viennent d'Annette, d'amis, qu'il faut qu'on aille visiter, donc ouais, je pense que ce sera un retour en Birmanie.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. T'as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une anecdote, une recommandation, une histoire, un proverbe, c'est à toi.
Peut-être une citation que j'ai apprise... J'ai appris en pompant au lycée militaire, hein, donc ça m'est, voilà, c'était il y a 15 ans, ça, je la connais encore par cœur, qui est le texte de, alors on l'attribue souvent au général MacArthur, mais il faut savoir qu'il l'a piqué à Samuel Ullman, qui est un poète, qui a le texte Être jeune, je sais pas si tu connais, qui dit, la jeunesse n'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit, qui dit, en gros, qu'il faut pouvoir garder son âme d'enfant et s'émerveiller des choses de la vie, et je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut garder en tête et comme le dit justement Ullman, si un jour votre âme devrait être touchée par le cynisme ou rongée par le pessimisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Voilà, c'est garder cette jeunesse et garder cette curiosité. Et voilà, c'est comme l'enfant insatiable, voilà. Et après, ben voilà, on verra la suite.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'était Bourlinguer. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.